Radio Django, la rose des vents.
À 18h21, on entame cette rose des vents et nous parlons de migration avec un écrivain invité en mars par Bibliomédia dans le cadre du Printemps de la Poésie, un événement organisé sous le signe de l'exil en solidarité avec des personnes migrantes. C'est avec toi, Daniel, qu'on en parle ce soir et la poésie, semble-t-il, permettrait de mettre des mots sur l'exil.
En effet, Fabien, j'ai eu le plaisir de découvrir à cette occasion deux auteurs qui, par la poésie et le roman, ont su raconter leur exil et surtout celui des autres. Les autres étant entendus comme ceux qui n'ont pas la parole en raison de la langue, de leur statut d'étranger ou encore tombés hors de la vie.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Fabiano Alborghetti, un poète d'origine italienne installé aujourd'hui au Tessin. Engagé, ses écrits s'inspirent du réel pour faire exister les vies effacées. Bonsoir Fabiano Alborghetti.
Bonsoir à vous tous et merci.
Vous êtes avec nous en direct par téléphone depuis le Tessin où vous résidez. Vous avez reçu, pour ce qui est de votre parcours en 2018, le prix suisse de littérature pour Miser, un roman en vers sur l'arrivée au Tessin d'une famille italienne avec tout ça dans les années 50. À ce jour, 5 recueils de poésie traduits dans plusieurs langues jalonnent votre parcours d'écrivain. Vous avez publié en 2006 La Rive Opposée, votre premier recueil qui raconte votre rencontre avec des migrants clandestins, des poèmes qui retracent des trajectoires, des souffrances et une forme d'impuissance, même si la vie continue. 10 ans plus tard, vous décidez de redonner vie, si je puis dire, à ce poème dans une nouvelle version parue aux éditions d'En Bas en février 2018. Fabrizio Alborghetti, pourquoi ce sursaut 10 ans après? Est-ce que vous avez donné envie de réécrire entièrement ce livre, peut-être?
Donc, pour vous répondre, il faudra faire face à deux itinéraires distincts, mais d'une manière liée. Le premier est social, le deuxième est moral. Pour ce qui est le social ou politique, il faudrait noter que le premier bateau d'immigrants abordait les côtes italiennes à Otranto, en Puglia, en 1991, et il était chargé de réfugiés albanaises. On parle du numéro de 20 000 personnes sur un navire. Mais à compter de cette date, les 25 ans qu'on suivit, des millions de personnes ont essayé de gagner l'Italie ou l'Europe, ou bien l'Europe, en quittant leur pays d'origine à cause d'une guerre, de la répression politique ou plus simplement à cause de la faim. Et ils ont cherché à rejoindre la rive opposée, voilà les titres, par voie terrestre ou maritime. Oui, bien sûr, beaucoup sont... Comme on connaît, beaucoup sont morts et continuent de mourir. La mer Méditerranée est pavée des corps. Et ceux qui attendent leur but et rejoignent la terre promise se sont heurtés à des difficultés législatives, à des oppositions politiques, à un refus social. Parce que pendant 25 ans, rien n'a changé. Rien n'a vraiment changé. Le départ continue. Hein, les arrives s'éteignent encore. Et la politique, dans les coins, hein, qui joue la rhétorique, la propagande pour continuer à rien faire, et voilà.
Puis, ça, c'est la première version, hein, Fabiano.
Voilà, et exactement.
Ça, c'est en fait ce qui fait l'objet du premier livre écrit en 2006.
Exactement, oui.
Et on serait curieux de savoir ce qui vous a conduit à réécrire ce livre en 2010, et surtout de comprendre en quoi ces poèmes répondent à un devoir de mémoire.
Alors, ici on arrive à la deuxième question, parce que je l'ai aussi écrit dans la préface du livre, avec les temps qui passaient, j'étais en train de les oublier. J'étais en train d'oublier tous les visages, tous les noms, tous les lieux. J'avais vraiment oublié tout le monde qui j'avais rencontré, et c'était d'une manière les nier une deuxième fois. Et dans la première version du livre, en 2006, ni les noms ni les indications géographiques ont été mises. C'est là pour se focaliser sur l'ampleur de la migration sur le monde. Et dans la version réécrite, je voulais rappeler chaque personne, visage, âge et lieu. Et voilà, je voulais faire ça 10 ans après.
10 ans après. Lorsque vous dites que ces personnes ont été quelque part niées par l'histoire, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ça veut dire que la tendance générale est d'oublier facilement. Il n'y a plus de permanence ou de rétention, rien du tout, de celui qui n'eût s'écoulé plus. Si le regard est ramené à voir, si l'attention est ramenée à ses souvenirs, alors il est encore possible de s'y plonger, de s'immerger dans la mémoire. Et voilà, l'histoire gagne si personne perd, comme on dit, la ligne de l'horizon.
En plus, on est dans un système qui rend ces personnes plutôt invisibles. Dans La Rive opposée, chaque poème est une voix et chaque voix est une histoire. Des poèmes pour humaniser des vies effacées, comme celle de Rahayan, un jeune Algérien de 22 ans dont vous avez traduit le récit en prose. On va lire un extrait de l'un de votre recueil de poèmes. Le nom était écrit en recommençant à la ligne, mais mieux vaut être mal compris qu'avoir les points liés et être renvoyé. « Je suis un homme légal, disait-il, en dépliant le papier. Je suis un corps avec un nom et je n'ai de valeur qu'écrit. Un homme a appelé pour ce qu'il est, avec le nom du sang, même si le droit à la paix s'obtient sur le papier ou sur le marbre et que cela suffise. » Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce témoignage, Fabiano ?
Le déni d'identité est la première et atroce démarche vers l'annulation. C'était vrai à l'époque, ceci reste vrai maintenant, et comme on l'apprend grâce au reportage journalistique, même la terminologie déplace l'attention et par conséquence la compréhension du phénomène. Et regardez, les réfugiés et les migrants n'existent plus. Ils sont effacés. Maintenant, nous n'avons que des migrants économiques. Et voilà, on a déplacé la terminologie pour s'oublier du phénomène. Et au niveau de la responsabilité nationale et politique, c'est une nomination très importante, même si elle apparemment est subtile. Et les confins déplacés, l'identité est réécrite, la catastrophe est patinée, au pire déguisée.
Absolument. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que finalement, la valeur d'un homme se réduirait aussi à un bout de papier. Et c'est ce qui ferait l'essence de l'humanité aujourd'hui.
Mm-hmm. Mais sans papier, nous sommes presque apatrides, dépouillés de la provenance, de la mémoire et de la possibilité. En tant que personne, il semble évident de dire que c'est la réalité. Nous vivons par accumulation des faits, nous vivons en devenant mémoire, et à la fois de notre personnel et de celui des autres. Et l'annulation conduit à l'invisibilité.
Absolument. Ce livre, Fabiano, est le résultat d'une expérience de partage. Comment est-ce que vous avez rencontré ces hommes qui ont fait l'objet d'un recueil de poèmes et pourquoi ?
L'invisibilité et les silences peuvent être assourdissants. À cours de cette année-là, j'ai travaillé comme employé, quand j'étais un concierge des Clés d'Or, dans un grand hôtel de luxe, dans les 120 000 ans. Et c'était un travail avec des horaires très spécieux, en dehors des heures normales des gens ordinaires. Et à ce moment-là, j'ai réalisé l'existence d'une contre-population, un flux tombé hors de la vie, bien, on est connu. J'ai décidé de vouloir savoir en plus. Et voilà, j'ai fait des tentatives, ratées ou pas. D'abord rejetées, puis en contact. J'ai contacté des personnes, j'ai expliqué mon désir de comprendre. Et après, bien sûr, d'écrire.
Mais comment est-ce que vous avez été reçu par ces personnes ? Parce que c'est vrai que ça reste des milieux difficiles à pénétrer et on a peur de l'autre.
Mais oui, bien sûr. Il y avait pas de confiance du tout. Il refusait moi comme personne, moi comme identité sociale, politique, qui pouvait les mettre d'une façon en danger. Et c'était question d'écouter, de parler, de résister. De leur faire présent qui leur vie n'était pas en présence fantôme, pas une accumulation des sons ou quelque chose comme ça, mais un résumé humain qu'il fallait compter.
De 2001 à 2003, vous avez partagé le quotidien de ces migrants clandestins. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de vie commune ?
C'est difficile. Comme il écrit dans la préface, la criminalisation des migrants par les médias n'est pas rendue compte de l'autre côté de la médaille, qui est un côté positif plus vaste que l'on peut imaginer. Et c'est un côté invisible surtout. On parle rarement de l'invisibilité. Et regarder l'autre côté de la médaille,
C'est regarder beaucoup d'humanité, je crois.
Absolument, absolument, absolument. Et mon approche, non seulement c'était dans la relation avec les autres, mais avec l'écriture elle-même. Je suis changé, l'écriture a changé, mon regard a changé. Et voilà.
Et en parlant d'écriture, finalement, pourquoi est-ce que vous avez choisi la poésie pour rendre visible l'invisible?
Parce que c'est une très bonne question. Parce qu'avec la poésie, on peut d'une manière donner un autre regard. On peut arriver à parler de l'épopée. Et ici, nous parlons d'une épopée. Les Myriens sont les nouveaux Ulysse, mais sans aucune terre qui les atteint où ils peuvent retourner. Et l'invisible, les non-dits, ne peuvent trouver un poids spécifique grâce à la poésie, dans mon point de vue. Et parce que la poésie suggère, évoque, soulève des questions, mais pousse le lecteur à trouver des réponses. Ce n'est pas la poésie qui donne des réponses. Il n'y a pas de réponse prête et c'est le lecteur qui doit le trouver.
Et est-ce que vous vous êtes vous-même rendu invisible pour écrire ce livre quand vous avez vécu en immersion avec ces migrants?
Absolument.
Mais est-ce qu'ils savaient que vous alliez écrire ce livre ou pas?
Pas au début, et puis oui. J'ai bien dit tout le projet, j'ai expliqué les projets entiers et ils ont bien accepté ça. Et la question, c'était d'être invisible, d'être une fantôme pour... j'étais déjà en présence intrusive dans leur vie. Alors, la question, c'est faire du silence, écouter, vivre avec eux, partager le plus possible, n'est pas être une présence du danger.
Est-ce que vous pensez que, de manière générale, en Europe, les Européens qui ont peur des autres devraient faire ce type d'expérience pour mieux apprivoiser justement les migrants et comprendre qu'au final, je veux dire, on est tous égaux?
C'est difficile. C'est vrai qu'on a
on a tous limites. Des craintes, il faut l'avouer.
Oui, mais non, l'être humain a des limites, je le sais. C'est pas la même chose pour tout le monde. Et il y a encore qui sont tellement plongés dans le racisme qui, pour aucune raison, elles seront disponibles à s'ouvrir à l'autre, à l'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui d'autre côté est disponible à partager, à s'ouvrir, à garder, à unir les langues, réaliser que l'autre n'est pas toujours en danger, mais c'est la possibilité d'apprendre quelque chose de riche.
De l'autre.
Riche. Oui, voilà.
Justement, c'est une forme de sagesse. Et on va faire un clin d'œil à ce magnifique monsieur dont vous parlez dans votre livre, qui s'appelle Mohamed, un monsieur d'origine marocain, qui est une figure emblématique de la rive opposée.
Oui.
Il disait « Nos vies sont trop brèves pour durer dans quelque chose » et en parlant, il montrait les papillons. « Ils disparaissent vite », disait-il à voix basse, « au bout de quelques jours seulement. À bien y réfléchir, nous avons le même destin, mais avec moins de légèreté. Pour conclure, pensez-vous comme Mohamed que nous avons le même destin que les papillons?
Les papillons vivent dans la fragilité et la défense, à la fois les changements qui les voient devenir et la beauté. Et la fragilité elle-même fait partie de leur beauté. Et pour les hommes, c'est pareil, oui, mais avec une différence substantielle. La fragilité doit être encore apprise. Nous nous sommes habitués à la nier. Les fragiles doivent être défendus. Et nous avons le même destin, oui, mais nos ailes sont souvent aveugles.
Merci beaucoup, Fabiano.
La rive opposée, hein, publiée par les éditions d'Amba en 2018, raconte le parcours de ceux qui ont pu gagner dans les années 2000 l'Italie ou l'Europe par voie terrestre ou maritime. Des trajectoires, Daniel, où la fragilité reste un luxe. Hein.
En effet, Fabien, parlant de fragilité, j'aimerais ponctuer cette rencontre sur ce poème de Fabiano Alborghetti, écrit en souvenir d'Agon, originaire d'Albanie, qui disait « La fragilité n'est pas permise. Dans l'obscurité, la voix, infiniment seule, disait ceci. Elle laissait au silence une tentation d'humanité, et dans ce silence, une ultime résistance nous répondait. »
Je crois que c'est effectivement une belle conclusion. La beauté et la force de ce recueil de poèmes résident dans son humanité et sa capacité à faire exister et donner une voix à ceux qui tombent hors de la vie. Une expression chère à notre invité de ce soir, Fabien Noël Borghetti, qu'on remercie. Une très bonne soirée à vous, au Tessin.
À vous-même, merci bien et merci pour l'invitation.
À très bientôt, merci à vous. Un recueil de poèmes pour humaniser des vies effacées qu'on peut trouver évidemment dans toutes vos librairies préférées. Merci également à Daniel pour la préparation de ce sujet, un sujet que vous pouvez retrouver et réécouter sur notre site www.django.fm. On termine avec un petit poème de Armohom Amar, qu'on écoute d'ailleurs.
کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در همون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش Thank you.
un poème signé Armand Amar. Il se nomme « Poème des atomes » pour clore cette rose des vents de ce mardi 1er mai, 18h41, on passe à cultiver Lausanne.